C'est une histoire, vraie ou pas, minuscule ou historique, monde réel ou imaginaire, mais c'est aussi peut-être une fable, une légende, un conte. Il était une fois, il y a longtemps et encore aujourd'hui, de page en page, de minute en minute, aujourd'hui jusqu'au point final. Au troisième jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Première phrase du nouveau roman de Miguel Bonnefoy, tout est dit ou presque, contraction du temps, destin exceptionnel et nous voilà embarqués dans cette histoire. Bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
Le rêve du jaguar, titre de votre roman, traverse le XXe siècle et raconte le parcours étonnant d'un homme qui deviendra l'un des plus grands médecins du Venezuela. Alors je parle d'une histoire, mais en fait ce sont de multiples histoires enchâssées que vous nous racontez. Est-ce que vous vous considérez comme un conteur, un brasseur d'histoire?
Ah, je trouve très belle cette idée du brasseur d'histoire. Et oui, sans doute, il y a l'idée de la brasserie, puisque tous les éléments qui sont dans le livre, presque aucun n'a été inventé. C'est tout simplement des ficelles, ce sont des pierres, ce sont des cordages, ce sont mille choses que j'ai rassemblées ici et là, comme tout écrivain, mon cas n'est pas du tout extraordinaire, et qui finissent ensemble, d'en faire une sorte de tresse, comme une étoffe, comme un textile, un texte, puisque étymologiquement le mot texte vient de textile. Donc finalement, c'est simplement saisir le réel, donner un ordre au bruit confus du monde et essayer d'en faire une histoire dans une construction narrative.
Et il y a aussi de la fable dans ce texte, d'où le jaguar du titre, qui n'est pas du tout l'animal. Le jaguar, c'est bien le personnage principal, c'est cet Antonio que l'on suit tout au cours du roman.
Absolument. Antonio est sans doute le personnage principal du livre, qu'on suit de bout en bout. Mais il y a beaucoup d'autres personnages importants qui gravitent autour, qui en orbitent, et qui donnent sans doute la saveur, qui donnent le parfum, qui donnent l'épaisseur, qui donnent tout le relief au roman. Et ce jaguar est bien entendu aussi assez métaphorique, puisque on raconte à Maracay, où les paysans de Maracay sont convaincus que dans toute portée de chat, il y a un jaguar. Et je me suis un peu épaulé, enfin, accoudé sur cette vieille légende pour montrer comment, de tous les enfants de la misère, de tous les enfants de la pauvreté, de tous les ruffians et de tous les ladres qui peuvent naître comme ça dans la fange et dans la beauté du monde, peut apparaître de temps en temps une sorte de figure un peu lumineuse, un peu ensoleillée, qui par ténacité, abnégation et persévérance finit par dépasser le carcan dans lequel il est né et avoir un destin extraordinaire.
Il y a donc de la fable dans votre roman, Miguel Bonnefoy, mais il se lit aussi comme un roman d'aventure et d'ailleurs vous avez une définition assez étonnante d'un roman plutôt. Vous dites « c'est une rencontre avec l'immobilité ». D'habitude, on dit « lire, c'est voyager ». Non, vous dites « vous, lire, c'est rester ».
Exactement. Lire, c'est rester dans le sens où lire m'a permis à moi, fils de diplomate, qui avait bougé toute mon enfance de capitale en capitale, de pays en pays, de frontière en frontière, de langue en langue, de culture en culture, ça m'a permis de rester dans une sorte de refuge, de havre, un petit monde avec des mâts suffisamment solides où je pouvais m'attacher comme Ulysse pour ne pas me laisser impressionner par les chants des sirènes. C'était rester dans les premières pages du livre de ma mère, d'Albert Cohen, le sonnet en X de Mallarmé, la fin de Terre des hommes de Saint-Exupéry, qui sont comme ça des pages, des lignes qui sont tatouées dans ma mémoire et qui, depuis l'adolescence, en y revenant régulièrement dans différents pays, dans différentes capitales, dans différentes cultures, je me disais, ça au moins, ça ne bougera pas. Ça, c'est immobile. Là, je peux rester. Et dans 200 ans, lorsqu'on relira Imaginez-vous, ces pages-là, eh bien, ça restera également. Et j'aimais beaucoup cette idée que lire, ce n'est pas seulement voyager. La littérature, ce n'est pas seulement voyager. C'est aussi, pour ceux qui viennent du voyage, rester sans cesse.
Mais imaginez que le lecteur que je suis, né en France et vivant en France, se retrouvait au travers de votre roman à Maracaibo, au Venezuela, dans les années 30, 40, 50, 60, 70. C'est un peu voyager.
Mais naturellement, et c'est un grand dépaysement, comme dirait Clément Bénèche. Bien sûr que c'est voyager, et heureusement. Et c'est la démarche du livre.
Alors cette déclaration, le roman c'est une immobilité, c'est la rencontre avec l'immobilité, est faite par Cristobal. Alors là, on est à la fin du livre, c'est le petit-fils d'Antonio, et c'est lui qui raconte. Donc je me suis dit, est-ce que ce Cristobal ne serait pas aussi un peu Miguel, parce qu'on a le sentiment qu'il y a, et vous le dites, il y a toute une série d'accumulations de faits. On se dit, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est l'histoire de votre famille?
C'est tout à fait l'histoire de ma famille. Antonio Borja Romero est le père de ma mère. Ana María Rodríguez est ma grand-mère, la mère de ma mère. Et Venezuela est une sorte de projection de ma mère. Lorsque j'avais écrit « Héritage » il y a quelques années, qui était une histoire sur mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mon père côté paternel, eh bien, le personnage de Hilariola, qui était ce jeune torturé chilien qui arrivait en France, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis en train de vous parler en français, n'était pas tout à fait mon père, mais c'était bien sûr son histoire. Et quand lui avait lu le livre, il avait dit « Je ne me reconnais pas dans ce personnage d'Hilariola, c'est une sorte de mélange entre toi et moi. » Et ça a donné ce personnage. Pour Venezuela, qui est ma mère, c'est la même chose. Lorsqu'elle a lu le livre, elle dit « Je ne me reconnais pas tout à fait dans ce personnage. » C'est une sorte de mélange de beaucoup d'autres femmes que tu as admirées, qui sont courageuses et intelligentes. Et donc, tu en as fait ce personnage qui porte le nom d'un pays. Et c'est finalement à la fois un pays et à la fois une femme. Donc, il y a bien sûr, encore une fois, ce brassage dont vous parliez. C'est une rencontre, en fait, c'est un rond-point, c'est un carrefour.
Et Cristobal, c'est donc...
Fatalement, oui, mathématiquement. Mathématiquement, Cristobal, c'est moi.
Celui qui fait entendre la voix des ancêtres, des anciens de l'histoire.
Tout à fait. Donc, celui qui écrit. Donc, finalement, celui qui conserve la trace, qui garde l'empreinte de toute cette histoire. Et moi, je m'appelle Miguel Rodrigo Cristobal. C'est mon troisième prénom.
Antonio, Venezuela, Cristobal, Miguel, toute une histoire que l'on va vous raconter après avoir tendu l'oreille pour écouter Zufri Maracas. C'est un groupe français qui sort à la fin du mois son cinquième album.
C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tout ce petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. Bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était
pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. À regarder marcher, à regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyage, fabuleux paysage dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Zoufri Maracas sur RFI, Si c'était pire, extrait de leur album à venir, La course folle. Une histoire folle aussi, celle d'Antonio, votre grand-père, Miguel Bonnefoy, dont vous faites le héros de ce roman, le rêve du jaguar. Antonio qui est donc recueilli par une mendiante sur les marches d'une église, élevée dans un bidonville aux abords du lac de Maracaibo, qui est un vaste marécage, mais qui va se battre. Est-ce que ça s'appelle un destin ?
Ça s'appelle sans doute un destin, absolument, mais pas avec la portée judéo-chrétienne du destin, mais plutôt, peut-être, plutôt ce côté grec de l'Antiquité, le côté de la destinée, ce que les Grecs appelaient le ananke, que les Latins ont appelé le fatum, qui a donné un peu l'idée de la fatalité. J'ai parfois l'impression que la naissance de cet enfant, sa découverte, le fait d'avoir été élevé par une femme qui était muette, qui avait des forts troubles d'articulation et qui était plus ou moins sourde, une femme de la rue, etc., a donné un côté presque oraculaire du héros à venir. Et lui, ensuite, une fois qu'il est devenu un recteur d'université, un chirurgien, un député, un homme qui a été très important dans la politique vénézuélienne, jouait énormément sur cette enfance dickensienne. On a énormément parlé, et c'est beaucoup, entre guillemets, vanté aussi de venir de rien, d'être un peu le produit du self-made man, comme l'avait été Maracaibo, qui a découvert le pétrole en 1920 et est passé du minuscule petit village de pêcheurs à être une cité babélique d'ingénieurs et de banquiers. Donc, en quelque sorte, il y voyait une sorte de parallèle, de miroir.
Et vous faites ce parallèle dans le roman, parce que le petit Antonio va vendre des cigarettes, devenir homme à tout faire, travailler dans un lupanar, le Majestic, avec une créature aux cheveux incroyables qui va l'initier à l'amour, bien sûr.
L'attitude de l'amour.
et puis, on est donc à Maracaibo dans les années 30, et c'est la période où l'on découvre le pétrole. Et la grande histoire, finalement, s'invite dans le roman familial.
Exactement. Et c'est ça ce qui m'a semblé le plus beau dans cette histoire familiale, c'est qu'il y avait une correspondance, une porosité, des passerelles étonnantes entre le pays où ils étaient en train de grandir, la ville où Antonio et Anna Maria se développaient, et le destin incroyable de ces deux, que ce soit Antonio ou Anna Maria, qui elle ensuite, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais qui est devenue aussi une très grande femme et qui est née d'une classe moyenne basse. Il y avait entre les deux quelque chose qui les portait. L'un avait besoin de l'autre.
Le pétrole, c'est la bénédiction ou la malédiction?
C'est les deux.
Du Venezuela.
C'est une belle question. C'est notre perte et notre grandeur. Le Venezuela a découvert le pétrole il y a à peu près 100 ans. Et à partir de là, on est devenu petit à petit, malgré nous, un pays en monoproduction. Si bien qu'on ne vend pratiquement que des barils de pétrole et on importe tout. Lorsqu'on mange le plat traditionnel vénézuélien qui s'appelle el pabellón criollo, on a des haricots noirs, du riz, des bananes plantains et de la viande. Chaque élément vient d'un pays différent. Aucun n'est produit au Venezuela. Et pourtant, c'est un plat national. Il y a quelque chose d'assez absurde, en fait, abstrait dans tout ce qui est au Venezuela, et ce qui a fait que pour créer une implosion économique, l'opposition a simplement dû fermer les frontières et donc fatalement, plus rien ne rentre. Et comme on ne produit rien, les gens sont si pauvres qu'ils n'ont que de l'argent.
C'est donc au Venezuela que se passe votre roman Le rêve du jaguar, avec ce personnage incroyable, votre grand-père, qui va décider d'être médecin, donc, et il va rentrer à l'école pour devenir médecin. On sait pourquoi il veut devenir médecin ?
Eh bien, on n'a jamais vraiment su, dans la mythologie familiale, on n'a jamais vraiment su pourquoi il voulait absolument devenir médecin. Il aurait pu devenir avocat, parce que Don Victor Emilio Montero, qui est cette espèce d'oncle éloigné qui l'a récupéré quand il avait 13-14 ans pour pouvoir lui faire entrer à l'école, lui était avocat. Et je crois qu'il a eu, selon ce que j'ai cru comprendre dans le Rector Eterno, qui est ce livre biographique qui a été écrit sur lui, qu'il avait eu 9 enfants, dont 7 sont avocats. Donc il aurait dû suivre, je pense, la branche, la ramification des lois. Et pourtant, il n'a pas fait du droit, il a fait de la médecine. Allez savoir, est-ce que ça vient aussi de... El Majestic, ce lupanar dans lequel il a grandi avec ses corps dénudés, une sorte de jeu avec l'anatomie du monde. Allez savoir, une chose est sûre, c'est que c'était assez beau d'imaginer que cet enfant de la misère finit en effet par être celui qui étudie les corps.
Grand médecin, cardiologue, oui. Il va faire 1134 opérations.
C'est ce qu'on dit.
Aucun de ses patients ne meurt.
Alors, voilà. Encore une fois, c'est ce qu'on dit, voilà. C'est la légende. Hein.
Voilà
c'est
la légende. Il va donc faire l'école, la fac, il va rencontrer la femme de sa vie, donc votre grand-mère, qu'il va séduire. Alors, qu'il va séduire avec un magnifique stratagème. J'ai pas envie de le raconter, mais si vous voulez le raconter, moi j'adore ça, les histoires d'amour.
Ouais, moi aussi. Eh bien, absolument. Cette histoire, elle est inventée, je dois la reconnaître. Hein. Ce n'est pas... Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé que ça arrive vraiment, mais c'est inventé. Et j'imagine tout simplement qu'Antonio, lorsqu'il a rencontré Anna Maria, lui a dit « Que faut-il faire pour se marier avec vous ?» Il lui aurait répondu « Je ne me marierai qu'avec l'homme qui me racontera la plus belle histoire d'amour. » Et lui, puisqu'il avait grandi dans un lupanar, donc ne savait rien de l'amour, ou du moins l'amour n'était qu'un supplément dans le tarif de base. Et la fidélité et l'amour se payaient dans le monde dans lequel il vivait, décide de prendre 2 tabourets, un carré de carton, une sorte de pancarte, et écrit « J'écoute des histoires d'amour », s'installe dans la gare routière qui est la plus grosse fourmilière de Maracaibo et attend que des passants s'assoient sur l'autre tabouret et lui racontent une histoire d'amour qui lui est arrivée. Il finit par remplir dans un carnet 1000 histoires d'amour et ensuite retrouve Anna Maria un peu plus tard, assise sous un manguier dans un petit jardin, dans un parc, lui pose le carnet sur les genoux et lui dit « Je ne connais pas la plus belle histoire d'amour, mais en voici 1000, je te propose qu'on écrive la nôtre. »
Magnifique.
Merci beaucoup.
Il va donc l'épouser, elle va devenir un grand médecin aussi, oui. En pratiquant des avortements, donc très féministe, très engagée, ils vont être aussi résistants. Et puis ils vont avoir une fille, on l'a évoqué, qui s'appelle Venezuela, que l'on a déjà rencontrée dans vos précédents romans, notamment le premier, Le Voyage d'Octavio. Oui. Et cette jeune femme, elle va vouloir partir, elle va vouloir aller à Paris, décrite... Cette ville qui a vécu les Jeux Olympiques, décrite comme une tache de larmes traversée par une ride d'eau. Et j'aimerais que vous nous lisiez, Miguel Bonnefoy, un court extrait de votre roman, qui est le moment justement où Venezuela annonce son départ.
Antonio ferma le livre qu'il était en train de consulter. Il se rendit compte alors, à cet instant précis, avec une certaine fierté qu'il ne s'avoua jamais, que Venezuela a été la seule femme de sa vie à lui avoir tenu tête, et pour la première fois depuis ce jour lointain où il l'avait prise dans ses bras en sortant de la prison, il fut gagné par une profonde affection. Elle avait des yeux très noirs, où l'on devinait une étincelle d'intelligence, une belle frange régulière sur le front, et un nez allongé, qui provoquait chez les hommes un mélange de fascination et de renoncement. Il la compara à l'image de sa mère au même âge, encore intacte dans son souvenir après tant d'années, mais ne put leur trouver aucune ressemblance. Il remarqua toutefois avec chagrin qu'il s'était éloigné lentement de sa fille sans s'en apercevoir, qu'il ne l'avait pas vue grandir, détournée par le travail, et il constata que cette distance entre eux, pleine de silence et d'incompréhension, éveillait en lui un regret profond qui était désormais impossible à rattraper. Il voulut la retenir, dans un dernier effort paternel, mais ne se sentait pas la légitimité de le faire. Il était désarmé. Le grand chirurgien ne savait que répondre. Les centaines de discours qu'il avait prononcés devant les plus hautes assemblées, les innombrables victoires face à la mort qu'il avait remportées dans le bloc opératoire, la liste d'embûches qu'il avait dû surmonter, tout ceci disparaissait devant cette fille courageuse, avec du feu dans les yeux, dont l'héritage venait d'une lignée de persévérants. Antonio comprit rapidement qu'il sortirait vaincu de ce duel et ne fit preuve d'aucune résistance. Il se décida finalement pour capituler, mais ne le fit que lorsqu'il la fit asseoir devant lui et lui prononça ces mots qu'elle garderait dans sa mémoire toute sa vie. « D'accord, dit-il, tu partiras. Mais rappelle-toi une chose, on est esclave de ce qu'on dit et maître de ce qu'on tait. »
On est esclave de ce que l'on dit et maître de ce que l'on tait. Ce sont les mots, Miguel Bonnefoy, d'un homme d'honneur. C'est-à-dire qu'il se sent engagé dans ce qu'il dit et sa vie aura été quand même une vie assez, assez magnifique, sans tâche.
Tout à fait. Sans tâche et du moins, moi, je ne les écris pas dans le livre. Car il m'a semblé plus beau de parler de la fleur plutôt que la ronce, de parler de la lumière plutôt que de l'ombre, et de peut-être cacher les aspérités qu'il y a eu aussi dans le couple et dans la famille. Comme dans toute famille, il y a eu des affaires. J'ai décidé au contraire de raconter une belle histoire qui soit un peu universelle, dans laquelle tout le monde puisse se sentir lié et rentrer dedans. Et cette phrase qui semblerait est vraie, ma mère me dit sans cesse que c'est la phrase qu'a dit son père avant qu'elle ne batte, je l'ai trouvée assez belle aussi par rapport à l'écriture. Comme si en quelque sorte, eh bien, je deviendrais, quoi qu'il arrive, esclave de ce qui serait écrit dans le livre, puisque petit à petit, eh bien, ça finirait par être gravé dans le marbre d'une nouvelle mémoire et qu'elle alimenterait la mémoire de mes filles, par exemple, qui liront le livre bien des années plus tard, etc. Et fatalement, t'es maître de ce que je tairai, c'est ça, puisque je garderai pour moi ces petites blessures secrètes qui n'ont pas été dites.
En tout cas, l'homme qui tient ses propos dans votre livre va voir une rue inaugurée à son nom en 1986. Et quand je disais que c'était un roman très contemporain, c'est qu'on le lit avec palpitation aujourd'hui, mais qu'il arrive jusqu'à la fin de ce XXe siècle. Donc la rue est inaugurée en 86 et même en 92, on voit dans votre roman la tentative du premier coup d'État de Chavez.
Oui.
Donc on est bien dans une histoire qui nous concerne, qui vous concerne.
Tout à fait, tout à fait. Je ne savais pas même où m'arrêter pendant l'écriture du livre. Parce que
vous auriez pu aller plus loin ?
J'aurais pu arriver jusqu'aujourd'hui,
oui.
nous parlons. Non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à quel moment tu t'arrêtes ? C'est-à-dire, je savais où je devais commencer, puisque j'avais cette belle idée de cet enfant déposé sur marche d'une église qui aura une rue à son nom, mais je ne savais pas où m'arrêter.
Cela dit, vous ne prononcez pas ou vous n'écrivez pas le nom de Chavez.
Oui.
Auriez-vous écrit celui de Maduro ?
Ah ouais, c'est intéressant. Je pense que non, je ne l'aurais pas écrit non plus, parce que c'est quelque chose qui est tellement frais. La réalité est tellement délicate en ce moment et la situation est tellement compliquée. Il y a aussi une voix du peuple vénézuélien qui essaye de se faire entendre et il faut savoir respecter ce retour à une sorte de grande démocratie. Je n'aurais pas écrit aujourd'hui Maduro, mais peut-être plus tard, qui sait. Enfin, j'ai écrit Marcos Pérez Jiménez, qui est mort en 58, donc je pouvais l'écrire facilement. Aujourd'hui, les choses sont très tendues, et je ne sais pas si c'est la place d'un écrivain, de celle de donner des jugements de valeur sur l'économie de marché.
Alors, à vous entendre, on pourrait penser que vous avez écrit un pavé de 600 pages. Eh bien, pas du tout, Miguel Bonnefoy, parce que vous allez vite. Je trouve qu'il y a un rythme quasi cinématographique, et il y a d'ailleurs dans le roman, d'ailleurs dans le film, il y a dans le roman un personnage qui est une tante, qui rêve de cinéma, qui rêve de Paris, qui rêve de Claudia Cardinale, et qui aimerait que tous ces jeunes gens deviennent des stars de cinéma. Est-ce que vous validez cette idée que ça va vite et que ça pourrait être un film ?
Ah, moi, j'aimerais beaucoup, bien sûr, que ce soit un film. Et oui, ça va vite. Et c'est une vitesse qui me plaît en tant que lecteur. Et donc, que je finis, bien sûr, par transposer dans ma propre écriture. J'aime les livres qui ne s'attardent pas dans de longs dialogues, dans des tunnels, dans des ventres mous. J'ai souvent l'impression de parfois avoir du mal avec les longueurs en littérature. Et j'aime quand l'écrivain a pris le temps de limer, de dégraisser, d'enlever, de lui-même se remettre en doute et se rendre compte qu'il y a certains passages qui peuvent se dire en une seule phrase.
Alors la question du style est posée à tous les écrivains, oui. Mais je trouve qu'elle est posée tout particulièrement aux écrivains venant d'Amérique latine, car il y a souvent, et c'est votre cas, une certaine luxuriance de la phrase, une présence égale des morts et des vivants, qui fait dire qu'il y a du réalisme magique, en référence à Garcia Marquez. Mais ce serait un cliché selon le grand écrivain mexicain Carlos Fuentes, il en parlait en 2003, une dizaine d'années avant sa mort.
Dans mes romans, il y a une grande variété de styles dans la littérature de l'Amérique latine. Il n'y a pas un seul style. Parfois, on l'identifie toujours avec le réalisme magique de Gabriel García Márquez, qui vient du réalisme magique de Alejo Carpentier. Mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, le réalisme magique est la propriété exclusive de Gabriel García Márquez. Aucun autre écrivain appartient à ce courant. Et le roman et la littérature en général nous présentent la partie non dit ou invisible de la réalité. Malraux, je crois, c'était Malraux qui parlait d'un musée de l'imaginaire où l'invisible est rendu visible et le visible aussi devient invisible, n'est-ce pas ? C'est un peu le cas pour tous les arts.
Miguel Bonnefoy, vous êtes vénézuélien, fils d'un écrivain chilien. Vous en pensez quoi de ce que dit Carlos Fuentes ?
J'aime beaucoup ce que dit Carlos Fuentes, qui faisait partie des quatre, disons, éléphants sacrés du boom latino-américain, qui a très bien connu García Márquez, qui a essayé, je pense, lui aussi, de se détacher un peu de cette étiquette de réalisme magique qu'avait beaucoup Cortázar, qu'avait beaucoup Vargas Llosa, qu'avait beaucoup Alejo Carpentier, bien entendu, et même les Vénézuéliens. Et
Mais vous voulez vous en détacher aussi ?
Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vieil héritage du surnaturel dans la réalité au sein de la littérature mondiale. Et Kafka était déjà en train de faire du réalisme magique quand il écrivait La Métamorphose ou quand il faisait Le Procès. Et Oscar Wilde, avec son délicieux Dorian Gray, c'est du réalisme magique aussi. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est du réalisme magique. Et lorsqu'on lit Homère, c'est du réalisme magique. Et j'étais il n'y a pas longtemps pour la traduction roumaine d'un de mes livres. J'étais à Bucarest et on m'a remis dans les mains le solénoïde de Cărtărescu. Je découvrais du réalisme magique roumain. Et lorsqu'on lit les nouvelles de Saint-Pétersbourg de Gogol, bah, c'est du réalisme magique. Donc en quelque sorte, en France, il y a Sylvie Germain, il y a Marcel Aimé, et il y a tant d'écrivains qui eux aussi s'y prêtent. Je pense qu'il y a toujours eu une sorte de beau dialogue entre le surnaturel, l'idée qu'on puisse mettre un petit peu de magie en littérature et un contexte naturel avec des conséquences logiques.
Mais s'il faut vous étiqueter, Miguel Bonnefoy, en France, on aime beaucoup les étiquettes, vous qui écrivez en français, oui, mais qui êtes vénézuélien, vous êtes quoi ? Un écrivain latino-américain ou un écrivain français ?
C'est une belle question et moi je pense qu'il y a dans mon cœur plusieurs courants et il y a plusieurs nationalités, il y a un camailleux de couleurs et je me sens français quand je suis en France, je me sens vénézuélien quand je suis au Venezuela. Mon père est chilien, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie au Chili et je me sens chez moi quand je suis au Chili. J'ai passé beaucoup de temps à Rome et j'ai passé beaucoup de temps aussi à Lisbonne dans mon enfance. Je suis fils de diplomate, donc fatalement, il y a eu beaucoup de choses.
Mais le français, c'est une évidence
pour
l'écriture.
Le français est une langue que j'aime par-dessus tout et j'aime aujourd'hui écrire en français et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en français. J'ai encore beaucoup de livres dans mon ventre que j'ai envie d'écrire en français et j'espère avoir la santé et le temps pour le faire. Il y a également l'espagnol, qui est la langue en partie de mon cœur, de ma famille, de ma mère, de mes racines, et j'espère un jour pouvoir également écrire en espagnol. Pour l'instant, piano piano.
Et vous écrivez métissé ?
Ah oui, alors c'est... Oui, tout à fait, c'est un peu entre les deux, bien sûr. C'est un métissage entre les deux. Et je me demande si... Est-ce qu'il y a un accent quand j'écris ? Et c'est quelque chose qu'on avait dit à Alain Babancou. On avait dit, monsieur, vous avez un accent quand vous écrivez. Et j'avais trouvé ça très beau. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un, en me lisant, me dira « Vous avez un accent en écrivant. »
Je vais relire. Merci beaucoup, Miguel Bonnefoy. Le rêve du jaguar, parce que vous n'avez pas du tout d'accent, est édité aux éditions Rivage. Cécile Lavolo, Laura Pinto, Pascal Paradou. À la semaine prochaine.